Bienvenue à l'expérience audio Simplement plein air. Cette expérience vous est rendue possible grâce à la participation des partenaires suivants.
Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 avenue Chaudière à Rouyn-Noranda, au 819-797-2564, point à la ligne.
On s'imagine pas qu'il y a autant de familles qui mangent pas à leur faim au Québec. Cette année, j'ai décidé de donner de la viande de gibier pour venir en aide à des familles de ma région. C'est pas compliqué. Je dis à mon boucher la quantité que je veux donner et un organisme passe pour aller distribuer la viande aux familles dans le besoin. Chasseurs, soyez donc généreux.
Pour transporter votre arme de façon sécuritaire, librement et parfaitement ajustée pour aller par-dessus vos vêtements de chasse, La Courroie Élite. www.cgelite.ca ou info@cgelite.ca.
C'est le temps de la chasse aux petits gibiers et aux oiseaux migrateurs. Vous rappelez-vous, tout jeune, nous partions avec le père à l'affût d'une perdrix ou encore d'un lièvre. Temps frisquet, pas très bien habillé, mais on chassait avec les grands. Aujourd'hui, c'est moi qui y vais avec ma famille. Mais cette fois-ci, ils sont confortables et bien habillés. Car peu importe la chasse, ça commence avec Pro Nature. Bon, v'là le souper! Pro Nature, le meilleur endroit pour les chasseurs.
Les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits.
Au chalet comme à la maison, verrouille ton arme. En cas de doute sur la façon d'entreposer ou de transporter ton arme, opte toujours pour l'option la plus sécuritaire. En collaboration avec l'Association québécoise de prévention du suicide, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs rappelle aux propriétaires d'armes à feu qu'une arme bien verrouillée peut éviter des drames.
Tu trouveras tous les règlements présentés de façon visuelle et simple sur sécurité-arme-à-feu.com.
Verrouille ton arme.
Simplement plein air, c'est de la balado. Simplement plein air, c'est de la radio. Et maintenant, simplement plein air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement plein air et abonnez-vous. Après tout, Simplement plein air, c'est pour vous.
Vous êtes de retour à Simplement plein air. Pour les habitués, vous le savez, c'est le moment de l'émission où on envoie Guy Martin prendre une pause bien méritée pendant que je reprends le flambeau le temps d'une chronique pour vous parler de pêche à la mouche. Pour les nouveaux, je me présente Vincent Delisle, instructeur et cofondateur de l'école de pêche à la mouche Spirit. Hey, en fait, je vous disais qu'on envoyait Guy prendre une pause, mais c'est pas vrai. Aujourd'hui, je l'amène en studio pour la chronique parce que on va parler de ces histoires de pêche. Hey Guy, comment ça va?
Ça va très bien, t'as manqué de t'enfarger là, mon ami, hein?
Ah, juste un peu, mais c'est les plaisirs de la radio. Donc, je veux que Guy nous parle un peu de ces histoires, mais surtout de celle-là qu'il a faite en même temps qu'on s'est connu pour la première fois. Parce que, savez-vous, c'est sous quel nom que j'ai connu Guy? J'ai connu Guy sur Pêche en Ville et il se prénommait Redfish Hunter. Bon, hein, c'est en anglais, donc le chasseur de poissons rouges. Non, c'est pas ça, hein?
Ouais. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça. Pourquoi tu peux être chasseur des poissons rouges, tu sais? Mais le redfish, ou mieux connu sous red drum, ça dépend si on est dans les Carolines, c'est le red drum. Mais sur la côte, sur le bord, si on veut, du golfe du Mexique, on le connaît sous le nom de Redfish, là, du yes. Texas, ça allait à Floride. Là.
Ouais, je voulais t'amener à nous en parler parce que cette semaine-là, on a eu des nouvelles un peu plus poches là, pour plusieurs d'entre nous. On se retrouve encore en zone rouge pour plusieurs jours, voire encore quelques semaines. Donc là, oui, il y a de la pêche à faire en automne, mais je pense qu'on a besoin de se chauffer à couenne avec tes histoires. Là. Tes histoires de la Floride puis de la chasse à ce superbe poisson qu'on appelle le redfish.
Oui. C'est quoi, là, moi, redfish? Je te dirais, là, le fameux redfish, là, c'est ce qui fait rêver. Si on ouvre un peu les magazines américains ou si on va sur des sites de pêche américains, là, on voit beaucoup le redfish, là, c'est celui là qui a des... Il y a des taches là, sur la queue. Là. Tu sais, des belles taches, soit... Ben, ils sont noirs, là, mais des fois, on voit des queues qui sont bleues parce qu'ils mangent du crabe bleu, là, du blue crab. Et puis ça, ça, c'est un poisson qui est combatif. Mais moi, j'ai une anecdote à ce poisson-là que je peux vous conter là, vite, vite. Là. L'anecdote étant que la première fois, je pêche à la mouche là-bas. Et puis, on pêche sur le bord d'un quai le soir. Mais sur le bord d'un quai. Quand je dis sur le bord d'un quai, on était dans l'eau. Et puis, on pêchait vers la lumière. Parce qu'on savait qu'il y avait la fameuse gator trout qu'il y avait là. Mais là, à un moment donné, je faisais quelques truites que je prenais. Puis, il y a de quoi qui a mordu. Mais là, là, hey, ça a décollé cette affaire-là. Et puis, de fil en aiguille, tu sais, je me disais, voyons donc, c'est que c'est ça, il faisait noir, là. J'ai réussi à l'amener pour m'apercevoir que, pour moi, dans ma tête, connaissant pas le redfish, puis il fait noir, là, je regarde ça, je dis, hein, il y a de la carpicite. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ça ressemblait un peu à une carpe, puis il y avait un gars un peu plus loin, un peu, peut-être à 100 pieds de moi, il me disait, ah, did you get a redfish? Did you get a redfish? Tu sais, t'as-tu un redfish, puis je fais quoi, ça? Moi, je l'ai relâché. Il dit, hein, voyons donc. Il dit, qu'est-ce que t'as fait là? Il dit, c'est bon. Il dit, tu me disais que t'aimais ça, le poisson. Il dit, ça, là, il dit, c'est un poisson qui est excellent. Tu sais, hein, les Américains, la remise à l'eau, dans ce temps-là, surtout, c'était extrêmement rare, là. Fait que, c'est ça. Ça a été ma première fois que j'en ai pris un, puis je suis pour pantoute, c'était quoi.
Et puis, t'as eu ton premier kill là, mais pour aider un peu les auditeurs là, à s'imaginer un peu ce poisson-là. Là. Ouais. On parle d'un poisson qui peut atteindre quelle taille à peu près?
Oh mon Dieu, il y en a qui en prennent à la ligne là, dans le 35, 32, 35 livres.
Wow, OK.
Oui, oui, oui.
Quand on le pêche à la mouche, mm-hmm. on le pêche comment?
À ça, là, mon gars, là, c'est la plus belle aventure. Moi, je mettais ce qu'on appelait un... C'était ni plus ni moins un streamer, là. Mais les premiers streamers que je mettais là-dessus, moi, c'était comme genre, là, fait penser un peu à une Daredevil, tu sais, du rouge et blanc, là. Mm-hmm. Et puis, là, il y a quelqu'un qui m'est arrivé à un moment donné, il me disait, non, fais-toi des beaux poppers, là, en chevreuil, en poil de chevreuil, puis strip ça sur l'eau, mon gars, là, puis tu vois les plus beaux spectacles. Fait que finalement, c'est ce que j'ai fait, puis c'est la méthode que j'ai adopté par la suite, parce que moi, c'était pas la quantité, là. C'était plus la qualité puis la beauté de la chose. Fait que je me faisais là, des poppers, là, genre avec un collet là, en avant là, qui était rempli de ciment, là, de tête, là. Et puis juste pour que l'eau revole.
Okay.
Et puis là, c'était la folie. Puis ça, je te dirais que beaucoup de gens le pêchent avec ça là-bas. Là.
Tu le pêchais à pied ou en embarcation?
Les deux. J'ai fait du kayak longtemps dans la baie d'Escambia, là-bas. Là, on vivait en bordure de Pensacola, qui est dans le nord-ouest de la Floride. Et puis, je le faisais en kayak parce que la baie d'Escambia, il n'y a pas beaucoup d'eau. Je parle à marée haute, là, tu as 5-6 pieds d'eau. Et puis, c'est un terrain qui n'est pas égal. Donc, tu as des bancs de sable. Donc, on choisissait nos endroits. Puis, naturellement, bon, on privilégiait le soir, malgré que j'ai pêché là, sur des flats là, dans le golfe du Mexique. Là, c'est différent. En embarcation, on paulait. Tu sais, quand on voit là, les gars là, en arrière là, sur le moteur, bien, pas sur le moteur, mais une plateforme en haut du moteur qui paule. Là, on cherche les flats. Ils nous spotent le redfish, puis là, on le pêche comme ils font au permit aussi. Là. C'est à peu près de la même façon. Et puis, on le pêchait comme ça, mais généralement, moi, je privilégiais les baies, et puis je pêchais aussi à vue, là, mais je privilégiais plus les baies. Donc, tu partais en kayak, et puis tu te faisais traîner un petit bout. Quand il arrivait un banc de sable où tu voyais le fond, là, tu débarquais, puis là, tu le fightais, parce que sinon, tu pouvais prendre des méchantes raids, là.
Ouais, hein, ça fait qu'un turbo redfish sur un kayak, ça peut être intéressant, ça.
Ben oui, monsieur, puis surtout qu'on le pêchait, là, tu sais, nous autres, là, on pêchait ça avec des bas de ligne, là, de 8, entre 8 et 12 livres maximum, tu sais, pour avoir plus de sport, là, on pêchait ça avec une canne de 8 pieds, là, de la numéro 8, aussi simple que ça, puis on s'en allait là-dedans, puis naturellement, on sait, on est en Floride, donc l'eau est chaude. Malgré que le nord-ouest de la Floride, il ne faut pas s'y méprendre parce qu'il fait froid aussi en hiver. Là. La température joue là, dans le entre 32 Fahrenheit et 40 Fahrenheit, là.
Fait que c'est un poisson de flat. Est-ce que c'est un poisson
Oui.
qu'on peut trouver aussi dans les mangroves?
Non. Pas bien.
Non.
Ben, y en a, mais il faut. C'est plus un poisson de flat, comme tu dis, là.
Okay,
dans les
mangroves,
là, tu vas trouver le tarpon, puis tu vas trouver différents poissons, là. Mais
Okay.
Non, c'est plus un poisson de flat, là.
OK. Puis un peu, quand on est vraiment en mode chasse, comme tu le disais, là, c'est le tailing qu'on va chercher.
Oui. Oui, puis ça c'est le... Moi, je pense que ça a été sinon les plus belles expériences de pêche que j'ai eues.
Peux-tu nous expliquer c'est quoi
là-bas.
Le tailing déjà?
Le tailing, c'est qu'est-ce qui arrive, c'est que le fameux, à marée basse, là, le fameux redfish, il va aller manger des, comment est-ce qu'on appelle ça, des blue crabs, là, des crabes bleus. Et puis, ou des barnacles, là, après les poteaux, là, de quai. Il va manger ça, puis il a la queue dans les airs, parce qu'il a la tête à terre, par en bas. Fait que là, on y voit la queue, là, qui sort de l'eau. Puis là, c'est le meilleur moment, là, parce que là, il mange, il bouffe. Donc, on sait qu'il
fait
bouffe.
Il est moins peureux dans ce temps-là.
Ah, il est moins peureux, puis s'il y a de quoi qu'il va y passer, tu sais, c'est comme tout prédateur, hein. La loi du moindre effort, s'il y a une plus grosse bébite qui passe, ben il va partir après. Donc, il partait après ça. Puis, c'était super trippant. Là. Je te dirais qu'on a eu des pêches épiques. Je pourrais en parler des heures et des heures, mais là, le temps file rapidement. Donc, il va falloir clore cette...
Je pense qu'on peut clore le monde en les invitant à fermer les yeux. S'imaginer par un beau 25, un soleil couchant dans une baie, avec des belles petites vaguelettes qui sont tassées par les queues de ces poissons-là, qui sortent un petit peu en train de manger le crabe, puis on est en train de les chercher. Puis bien là-dessus, je vous invite tout le monde à prendre une belle grande respiration et à vous préparer pour la prochaine chronique.
Envie de vous égarer?
Simplement plein air.
Envie de changer d'air?
Simplement plein air.
Avez-vous envie de grands espaces?
Simplement plein air.
www.simplementpleinair-simplyoutdoors.ca
Un commercial Simplement plein air.
Et voilà, nous sommes de retour à l'émission Simplement plein air. Et à ce moment-ci de l'émission, pour les habitués, vous savez qu'on va toujours parler pêche. Et quand on parle pêche chez nous, chez Simplement plein air, bon, on en parle avec un guide et un pêcheur professionnel, M. Félix Goulet. Salut Félix.
Salut Guy.
Cette semaine, là, c'est quasiment une crève-cœur. Pour certains, c'est sûr que c'est tough. Tu vas nous parler de remisage de nos embarcations en fin de saison. Et on n'a pas le choix, hein? Il faut le faire à un moment donné.
À un moment donné, toute bonne chose a une fin, qu'ils disent.
Ouais.
Ben, on est pas mal rendu là. Au mois de novembre,
ouais.
Ça ressemble pas mal à ça. Tout dépendant de où on se trouve au Québec. C'est sûr que dans le plus dans le sud du Québec, là, les gens vont être capables de pêcher un petit peu plus tard. Mais la grande majorité des gens là, rendus au mois de novembre, ben, c'est le temps de remiser l'embarcation, c'est le temps d'envoyer faire dodo à notre bateau pour tout l'hiver puis le retrouver le printemps prochain.
Le printemps, oui.
Quelques petits points qui sont très, très importants. À s'assurer avant de justement envoyer le bateau au remisage. La première des choses qui est importante, c'est de s'assurer qu'il n'y ait aucune eau qui reste présente dans l'embarcation, que ce soit dans la cale du bateau, que ce soit dans le vivier, que ce soit dans les tuyaux de la pompe de cale, dans les tuyaux de la pompe de vivier et ainsi de suite. L'eau, l'hiver, hein, on le sait, au froid, ben, elle va geler. Puis lorsque l'eau gèle, ben, elle va prendre l'expansion. Si l'eau est prise dans un tuyau, ben, le gel va faire que souvent ça va endommager le tuyau. Le tuyau va craquer durant l'hiver. Donc ça, c'est hyper important que le bateau soit le plus sèche possible. Comment on fait pour faire sécher notre bateau? Ben, idéalement, que ce soit une chaloupe, que ce soit un plus gros bateau, le bateau est sur une remorque. Souvent, ben, cette remorque-là va avoir j'ai juste jack là sur.
Ouais. un jack.
un jack, un bon vieux jack sur la pôle de la remorque, ben on va élever le plus possible au bout du jack notre embarcation pour que le derrière de l'embarcation soit le plus bas possible et le devant le plus haut possible pour que toute l'eau se ramasse en arrière. On s'assure qu'il ne reste pas d'eau dans le vivier, donc on enlève le bouchon de vidange du vivier et on enlève le bouchon de vidange principal du bateau pour que toute l'eau s'écoule le plus possible pour qu'il reste le moins d'eau possible. À ce moment-là, on va s'assurer, comme je le disais, que tout soit sec partout et le gel n'endommagera pas aucun, que ce soit la pompe de vie, la pompe de cale et toute la tuyauterie de l'embarcation. Donc ça, c'est une chose qui est assez simple à faire, mais qu'il faut faire assurément. Deuxième des choses, ben moi j'aime bien, moi personnellement je vide mon embarcation d'un bout à l'autre. Ce que je veux dire par là, tout le contenu de mon embarcation, tout ce qui se trouve dans les coffres de rangement, que ce soit des cannes, les vestes de flottaison, les cordages, la rame, tout ce qui se trouve à l'intérieur de l'embarcation dans les coffres, je le vide. Je vais laisser, on essaie de profiter de, je ne sais pas, au moins 2-3 jours de soleil dehors. Ou si vous avez un garage chauffé, ben on met le bateau et on ouvre tous les coffres. On laisse tous les coffres ouverts pour justement s'assurer que toutes les coffres, l'intérieur des coffres sèche le plus possible, le plus adéquatement possible. Vous possédez un toit sur votre embarcation, vous avez des toiles. Ces toiles-là, ben, on prend soin de les étendre, de les faire sécher. On peut les placer sur la corde à linge, on peut les placer où on veut, mais c'est important que toutes ces toiles-là sèchent avant de les remiser. C'est une question, ben, justement, pour pas que ça gèle, puis c'est une question aussi que souvent, ben, le matériel, surtout s'il commence à avoir quelques années, ben, l'humidité qui va rester trop longtemps dans ces toiles-là va faire que, ben, il peut y avoir un risque de pourriture. Donc ça, c'est un autre point important. On fait tout sécher nos toiles. On peut remettre les toiles dans le bateau ensuite, mais on s'assure qu'ils soient vraiment sèches. Ensuite de ça, changement d'huile, vidange de l'huile du pied de moteur. C'est recommandé de le faire à l'automne. En faisant la vidange de l'huile de notre pied, ben on s'assure que si jamais il y a eu une petite infiltration d'eau dans le pied durant la saison, ben on va complètement sortir l'eau et l'huile de notre pied, puis on va replacer de l'huile flambant neuve. Elle, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'eau dedans, donc on va encore une fois s'assurer de ne pas faire craquer notre pied, parce que s'il y a suffisamment d'eau dans le pied, ben l'eau qui gèle, qui prend de l'expansion, peut faire craquer notre pied, et là, ça va nous apporter des dommages très, très coûteux. Si on possède une embarcation 4 temps, on peut faire notre changement d'huile, changer le filtreur à l'huile et ainsi de suite. Ensuite de ça, notre remorque, il y a quelques petits points à vérifier. Le principal point à vérifier avec notre remorque, c'est dans le fond, les roulements de nos essieux. Ça, c'est hyper important. On le sait, hein, on met notre bateau à l'eau plusieurs fois par été. Donc, la remorque, ben, veut pas, elle se ramasse à l'eau aussi. Donc, il y a de l'eau qui peut entrer dans les roulements à baie. C'est pas grave, mais si, justement, il y a de l'eau de présente dans la graisse de nos roulements à baie, ben, un hiver au complet, à un moment donné, il va y avoir des taches qui vont apparaître, des taches de rouille qui vont apparaître sur les roulements à billes. Puis, la saison suivante, si on part avec ça, ben, ces taches-là vont accentuer, dans le fond, nos roulements à billes vont chauffer lorsqu'on va rouler sur le chemin. Et ben, on risque d'endommager les roulements à billes et on risque de perdre une roue, comme on voit assez régulièrement sur le bord du chemin. Donc, ce qu'on fait, ben, on va graisser adéquatement nos roulements à baie. En graissant, en rajoutant de la graisse, ben, la graisse va pousser sur l'eau et on va tout évacuer l'eau qui pourrait être présente sur nos roulements à baie. Donc ça va nous assurer que nos roulements à baie vont être bien graissés et qu'ils ne présenteront pas de rouille la saison suivante.
La saison d'après, oui, c'est ça. Moi, j'ai une question pour toi, Félix, vite, vite. Là. Oui. On voit souvent des embarcations qui ont un genre de wrap, là. Toutes wrappées. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça?
C'est un très, très bon moyen. Ce n'est pas tous les gens qui ont de disponible une remise ou un garage pour faire passer le bateau l'hiver. Donc, c'est un très, 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 très bon moyen de protéger le bateau contre les intempéries d'hiver, c'est-à-dire pour pas que le bateau s'emplisse de neige si jamais on laisse le bateau à l'extérieur. C'est un très, très bon moyen. Soit le faire par le concessionnaire, les concessionnaires sont spécialisés là-dedans, ou il y en a qui vont le construire eux-mêmes, et il n'y a pas de problème. La dernière des choses, nos batteries. Quand on fait faire l'entretien chez le concessionnaire, habituellement, le concessionnaire va recharger nos batteries à 100% avant de remiser le bateau. Puis souvent, le concessionnaire va laisser les batteries. Si vous le faites vous-même, je vous recommande de charger vos batteries à la fin de la saison. Et personnellement, je retire mes batteries du bateau. Et à quelques reprises durant l'hiver, peut-être une fois par mois, une fois par mois et demi, je vais mettre mes batteries sur la charge pour assurer une bonne charge de nos batteries tout au long de l'hiver. Comme ça, on va allonger la durée de vie de nos batteries à long terme en faisant ça. Puis souvent, si on a la batterie de démarrage, puis on a un moteur électrique qui fonctionne sur le 24 volts, c'est trois batteries. Hein? C'est trois batteries dans l'embarcation. On met 150-200 $ la batterie, là, c'est pas trop long qu'on se ramasse avec 500-600 $. Au printemps, on sort le bateau, puis les batteries sont pas bonnes, surprise, là, ça fait toute une dépense à faire avant notre début de saison. Donc, c'est une petite précaution qui est vraiment pas difficile, puis qui va nous assurer, comme je le disais, une longue vie à nos batteries.
Oui, effectivement. Et puis là, vous avez probablement entendu un petit peu d'écho. je m'en excuse, là, c'est arrivé assez drôlement. Mais le fil, écoutez, ça va très rapidement, hein, on le sait. Quand on a des chroniques avec notre ami Félix, ça va toujours trop vite. Écoute, Félix, si on veut te rejoindre pour avoir plus d'informations, ou on sait que naturellement tu es guide et pêcheur professionnel, donc si on veut réserver du temps avec toi, on le ferait de quelle façon?
J'invite les gens à consulter mon site internet, guide de pêche félixgoulet.com. Les gens vont retrouver tous les moyens de rentrer en contact avec moi, me poser toutes les questions qu'ils veulent sur mes différents forfaits, ou sinon me poser des questions, que ce soit la pêche en eau libre et même la pêche sur glace, hein, ça s'en vient à
un
grand pas. Donc, ça va me faire plaisir de répondre à toutes leurs questions.
Et oui, et en parlant de pêche sur glace, naturellement, la semaine prochaine, tu vas nous parler des préparations et de l'inventaire de notre équipement d'hiver. C'est très, très important. Et là-dessus, nous, on vous dit encore une fois, bonjour, bonne semaine, passez une excellente semaine. C'est sur ce qu'on termine notre émission ou notre balado, diffusion simplement plein air, en espérant, je devrais dire, que vous avez aimé. Et qu'on va vous retrouver la semaine prochaine ici même. Donc, passez une excellente semaine, tout en sécurité. Et nous, on vous dit bonne pêche et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, mon cher Félix.
À la semaine prochaine.
Simplement plein air, c'est de la balado. Simplement plein air, c'est de la radio. Et maintenant, simplement plein air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement plein air et abonnez-vous. Après tout, Simplement plein air, c'est pour vous. Les balados diffusion Simplement plein air sont rendus possibles grâce à la participation des partenaires suivants.
Pour transporter votre arme de façon sécuritaire, librement et parfaitement ajustée pour aller par-dessus vos vêtements de chasse, La Courroie Élite. www.cgelite.ca ou info@cgelite.ca.
C'est le temps de la chasse aux petits gibiers et aux oiseaux migrateurs. Vous rappelez-vous, tout jeune, nous partions avec le père à l'affût d'une perdrix ou encore d'un lièvre.
temps frisquait, pas très bien habillé, mais on chassait avec les grands. Aujourd'hui, c'est moi qui y vais avec ma famille. Mais cette fois-ci, ils sont confortables et bien habillés. Car peu importe la chasse, ça commence avec Pro Nature. Bon, v'là le souper! Pro Nature, le meilleur endroit pour les chasseurs.
Les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits.
On s'imagine pas qu'il y a autant de familles qui mangent pas à leur faim au Québec. Cette année, j'ai décidé de donner de la viande de gibier pour venir en aide à des familles de ma région. C'est pas compliqué. Je dis à mon boucher la quantité que je veux donner et un organisme passe pour aller distribuer la viande aux familles dans le besoin. Chasseurs, soyez donc généreux.
Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 avenue Chaudière à Rouyn-Noranda, au 819-797-2564, point à la ligne.
Au chalet comme à la maison, verrouille ton arme. En cas de doute sur la façon d'entreposer ou de transporter ton arme, opte toujours pour l'option la plus sécuritaire. En collaboration avec l'Association québécoise de prévention du suicide, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs rappelle aux propriétaires d'armes à feu qu'une arme bien verrouillée peut éviter des drames.
Tu trouveras tous les règlements présentés de façon visuelle et simple sur sécurité-arme-à-feu.com.
Verrouille ton arme.
C'est ainsi que se termine une autre bonne balado de Simplement plein air. Mais ne vous en faites pas, nous serons de retour tous les lundis, mercredis et vendredis pour le plaisir de vos oreilles. Car après tout, les balados diffusion Simplement plein air, c'est une passion.